Georgia en las playas del Congo. Un día de verano reinaba entusiasmo loco. Cantaban las marimbas, sonaban las guitarras, los botes se mecían, asidos a sus amarras.
Je me rappelle un autre exemple. Par exemple, le programme de télévision commence et finit par une prière.
Donc, même à la télé.
Oui. Donc, tu vois, je ne connais pas assez le pays pour donner encore d'autres exemples, mais je sais que l'Église est très, très présente partout, à tout moment. Mais il y a certainement, ça je ne connais pas, mais il y a certainement un courant de la théologie de... Comment est-ce qu'on l'appelle ? De libération,
oui, oui,
là-bas aussi.
Il y a une théologienne de la libération importante au Costa Rica.
Oui, là, tu vois, Chantal connaît mieux que moi.
Oui, il y a une théologienne de la libération, enfin, de ce qu'on appelle la théologie de la libération, c'est-à-dire cette théologie qui recherche l'application du christianisme à la base et l'Église des pauvres, etc., qui d'ailleurs n'est pas toujours sans être en conflit avec la hiérarchie officielle de Rome. Et il y a une femme, je crois qu'elle s'appelle Elsa Tamer, quelque chose comme ça, qui a fait toute une recherche auprès des théologiens de la libération en Amérique latine sur leur position par rapport à la femme, justement. Mais j'aurais du mal à vous en dire beaucoup plus. Mais je sais qu'elle vient de temps à autre en Suisse. Ça pourrait être une fois très intéressant de la rencontrer.
Quelle autre forme, par exemple, Evelyne, prend les discriminations dont sont l'objet les femmes de la classe moyenne ? Par exemple, si elles veulent travailler, elles ont des problèmes ? Ça fait partie des choses que ne devrait pas faire une femme de la classe, une femme au Nicaragua, par exemple ?
Costa Rica. Non, si elles peuvent travailler, bien sûr. Elles vont, celles que j'ai nommées, là, les enseignantes, les femmes avocates, médecins, sont allées à l'université. Elles trouveront un travail. Mais... elles n'auront pas, à études égales, elles n'auront pas le même, malgré tout, le même statut professionnel qu'un homme exactement, apparemment. Enfin, d'après ce qu'on m'a dit. Même si on a des femmes ministres, même si il y a des femmes qui sont très bien placées. Bon, dans une entreprise, on dit que une femme, on lui demande un certain nombre de compétences pour remplir une fonction, mais toujours, on lui demande encore plus. On lui demandera des faveurs spéciales qu'on ne demandera pas à un homme. Je ne sais pas si c'est apporter le café à 10 heures ou quoi, mais enfin, on lui demande toujours quelque chose encore en plus. Et s'il y a des problèmes de rétrécissement de budget ou de choses, il y a quand même une tendance à éliminer d'abord les emplois occupés par des femmes que les hommes. Maintenant, si on descend dans des professions moins bien rétribuées encore, où il y a encore moins de protection sociale, parce qu'il faut dire qu'il y a quand même une certaine protection, un certain développement de la sécurité sociale au Costa Rica, surtout par rapport à d'autres pays d'Amérique du Sud ou centrale, il y a quand même beaucoup plus d'efforts qui ont été faits. Mais si on va assez bas chez les ouvrières ou comme ça, par exemple, le fait d'avoir... la loi dit qu'on devrait avoir 4 mois de salaire payé après un accouchement. Et bien souvent, cette loi n'est pas appliquée dans certains emplois. Parce que si l'employeur voit que la femme est enceinte ou il la licencie assez tôt, parce qu'il doit en fait l'employer au moins 3 mois avant que la sécurité sociale entre en action, disons. Et il y a encore beaucoup de licenciements abusifs qui se font aussi quand on voit qu'une femme est trop enceinte et qu'elle va accoucher, elle va coûter cher, disons, à l'employeur, et ben il s'en sépare. Donc ça arrive. Il y a beaucoup de choses qui arrivent aux femmes parce qu'elles sont des femmes dans le monde du travail. Ce qui n'empêche pas, comme je dis, qu'il y en a qui a des positions de prestige et d'importance.
Oui, c'est ce qui est frappant, je trouve, en Amérique latine et entre autres au Costa Rica, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de femmes dans les postes à responsabilité, entre autres dans les gouvernements ou les administrations d'État, qui ont des postes qui seraient souvent difficiles d'obtenir ici, surtout aux âges où elles les ont. Bon, il faut dire qu'aussi, en général, dans ces pays, oui, il y a beaucoup de personnes jeunes. Si on prend le Costa Rica, les deux derniers présidents de la République avaient environ 40 ans. Donc, c'est aussi des personnes jeunes, souvent, qui sont à des postes de responsabilité.
Mais si pour la majorité des femmes, ça pose quand même un problème de sortir des... Si ça pose quand même un problème pour la majorité des femmes de sortir de cette voie traditionnelle du rôle de la femme, ça veut dire que, bon, il y en a certaines qu'on imagine à la limite comme des hommes, et puis les autres, elles sont mal vues. Parce que pourquoi finalement doivent-elles aller voir une psychologue? Parce qu'elles sentent un conflit intérieur. C'est qu'on leur fait bien dire qu'elles ne sont pas à leur place, comme tu le disais tout à l'heure. Donc à celles qui sont dans les hauteurs, on leur pardonne parce qu'elles sont carrément autre chose que des femmes finalement?
Oui, mais celles qui sont très haut placées, elles proviennent de familles très haut placées. Et la grande bourgeoise ou l'ancienne aristocrate a toujours eu des privilèges par rapport aux autres femmes et par rapport à certains hommes aussi. Parce que la femme du maître commande à des ouvriers hommes. Et ça, c'est accepté traditionnellement qu'elle est... Elle est plus haute, même si elle est une femme, elle est la femme du maître. C'est pour ça qu'elle peut avoir cette autorité sur certains hommes. Mais dans le cadre de femmes, par exemple, politiques, souvent, on ne dirait pas qu'elles sont des marionnettes, disons, de leur clan familial quand elles sont à leur, elles prennent les décisions qu'on demande à leur poste, mais en général, elles ne vont pas contre des grands tabous. Par exemple, ce sera très difficile d'en voir une qui va s'élever contre l'Église ou qui va faire des critiques à la hiérarchie religieuse comme ça, ou qui va prendre des positions par rapport à la sexualité ou des questions comme ça. Ça ne se discutera pas.
Mais alors, qui le fait? Est-ce qu'il y a un mouvement féministe organisé au Costa Rica?
Il y en a un. Il y en a, je sais pas, moi je vais bien donner la parole à Chantal si elle veut dire quelque chose. Moi j'ai entendu parler de, oui, un certain, malheureusement, je dis malheureusement entre guillemets, souvent ces femmes qui étaient à des postes de prestige et qui étaient des féministes étaient aussi avaient abandonné une partie, je dirais, de leur sexualité et elles s'étaient reportées souvent après un divorce ou des fois, bon, un célibat. Sur les autres femmes. Donc, très facilement, on disait « Ah oui, c'est une féministe, mais c'est une féministe parce qu'elle est lesbienne. » Donc, c'est le cas d'ailleurs d'une... c'est plus son nom maintenant, c'est peut-être mieux d'ailleurs. Ça n'a pas d'importance ici en Suisse, de toute façon. Mais c'était une femme qui avait un poste de ministre ou presque, qui était dans ce cas-là, par exemple. Mais il n'y a pas que celle-là. Mais disons, celles qui sont peut-être le plus... combative, c'est peut-être aussi grâce à ça, parce qu'elles se sont libérées, disons, d'une dépendance maritale. Donc, elles se sentent plus fortes pour se battre que d'autres qui doivent aussi composer avec le mari, mais qui aimeraient quand même être plus libres, mais qui aimeraient quand même réaliser qui ont d'autres buts dans la vie que juste s'occuper de leurs enfants et des repas. Mais ça leur pose peut-être plus de conflits que celles qui ont déjà rompu au moins avec la question, au moins avec la sexualité traditionnelle ou classique ou normale, entre guillemets, comme on dit.
Et moi, j'étais pas particulièrement concentrée sur ce sujet-là, donc j'ai pas énormément d'informations, mais à travers les contacts comme ça dans la vie quotidienne, j'ai effectivement rencontré des femmes qui appartenaient à différents mouvements et à différentes recherches dans ce domaine du féminisme. Et puis, j'ai assisté quelquefois à des discussions entre femmes sur ce sujet-là, et il y avait des divergences. Je crois que c'est un peu leur recherche entre les mouvements féministes occidentaux, et alors certaines les reprennent, Et d'autres disent, mais en fait, c'est pas adapté à notre réalité. Entre autres, au niveau de la bourgeoisie, quand on parle du partage des tâches entre l'homme et la femme, etc. Certaines femmes disent, mais chez nous, c'est pas le même problème, puisque dans la classe moyenne, il y a les employés. Alors, c'est pas là-dessus qu'on doit se battre, c'est sur d'autres choses. Donc, je crois qu'elles sont à la recherche de leur propre identité aussi dans ce domaine-là, mais qu'il y a effectivement des mouvements qui existent. Et il me semble qu'il y a quelque chose qui est intervenu quand même depuis une dizaine d'années et qui a changé la vie d'un certain nombre de femmes, c'est le divorce. Parce que c'était une chose qui ne se faisait pas, mais bon, comme ça a été aussi chez nous pendant longtemps, et que ça s'est débloqué il y a environ une dizaine d'années. On trouve actuellement pas mal de femmes de 50 ans qui disent « j'ai recommencé ma vie » ou « j'ai commencé ma vie à 40 ans quand j'ai osé divorcer ». C'était des choses justement qu'on ne faisait pas avec le pouvoir de l'Église, la morale de la société. Donc, elles l'ont fait, un grand nombre l'ont fait, des hommes aussi d'ailleurs. Je crois que des deux côtés, il y avait un sentiment de libération de certaines tensions. Et ce qui est effectivement vrai, c'est que ces femmes ont divorcé et continuent, bon, c'est quelque chose qui est donc condamné par l'Église, mais continuent à aller à la messe, à faire baptiser les petits-enfants, bénir, effectivement. Donc, c'est très mélangé. C'est assez différent de ce qui est chez nous.
Alors, si on a eu un petit aperçu de ce que peut-être est la situation des femmes dans le cas de la classe moyenne, que j'imagine on trouve essentiellement dans les villes. Et puis, comme tu le disais, Evelyne, Ursula Hauser, le nom de cette psychologue zurichoise installée au Costa Rica, a à un moment donné été en direction des femmes de la campagne. Alors là, on doit découvrir une situation bien différente. Je suppose que les problèmes n'étaient pas du tout semblables et surtout les moyens d'approcher les femmes ne pouvaient forcément pas être les mêmes.
Non, il y a de grands problèmes d'alcoolisme, il y a beaucoup de violence à la campagne, il y a beaucoup d'inceste aussi. Donc tout ça, ça fait déjà beaucoup de problèmes pour les femmes et leurs filles et leur mère, enfin pour toutes les générations qui, souvent il y a trois générations qui vivent ensemble. Et alors son travail s'est passé de la manière suivante. Elle est venue d'ailleurs le présenter au mois de juin passé en Suisse. Et une cassette vidéo qui a été faite à cette occasion, à l'occasion du séminaire dont j'ai parlé tout à l'heure, peut se louer, ou enfin se louer, se prêter au séminaire. Elle est actuellement au séminaire psychanalytique de Zurich, mais on peut l'obtenir si on veut la voir pour des groupes de femmes qui aimeraient travailler sur les problèmes. Parce qu'en fait, elle s'est associée donc avec une amie psychologue costaricaine et elles ont réuni donc un certain nombre de femmes, elles étaient 43 en fait, qui provenaient que de la campagne, mais de différentes communautés paysannes, qui avaient entre 18 et 75 ans. Elles les ont réunies à un certain endroit, deux fois par semaine. Ça a posé des problèmes très difficiles pour les femmes, d'abord de rejoindre le lieu, de se libérer de leurs obligations familiales régulièrement, deux fois par semaine pendant 3 mois. Mais elles l'ont toutes fait. Et elles les ont divisées en deux groupes de travail, d'une vingtaine de personnes chacune. Donc, et elles ont fait du psychodrame avec elles. Une des deux a filmé en vidéo toutes les séances de travail et l'autre travaillait, disons, concrètement avec les personnes présentes. Et donc, c'était elles leur ont fait, comme dans les psychodrames, au fond, elles leur ont fait jouer leurs problèmes, jouer leur vie, prendre les rôles de leurs parents, prendre de leur mère, de leur père, de leurs enfants, etc. Au fond, pour sortir à la lumière tous les conflits, tous les problèmes non résolus et qu'elles gardaient inconsciemment en elles et qui leur donnaient des tas de problèmes du genre angoisse. Il y avait le cas d'une femme qui avait de l'asthme et qui était complètement d'origine psychologique. Par exemple, c'était une femme, dans ce cas-là, qui voulait sortir de chez elle et n'osait pas parce que la tradition dit qu'une femme doit parcourir les rues, elle doit être chez elle à faire son travail ménager, peut-être juste sortir pour faire les courses, mais rien d'autre. Elle, elle avait envie de sortir, elle avait envie de voyager, elle avait envie d'aller à la ville. Donc, elle n'osait pas. Et elle a développé un asthme qui faisait qu'elle ne pouvait pas sortir, puisque l'asthme l'empêchait de sortir. Donc, c'était une femme qui voulait faire quelque chose, qui protestait contre une certaine situation, mais qui immédiatement se punissait de d'oser protester, d'oser dire non, d'oser vouloir changer. Elle se punissait immédiatement et disons, elle était malade, mais c'était la manière qu'elle avait trouvé de résoudre son conflit. Alors, ça c'est juste un exemple, mais elles ont fait pendant tout ce temps des travaux sur les personnes elles-mêmes en utilisant la méthode, en partie la méthode psychanalytique, qui dit qu'un conflit a une histoire et qu'il faut remonter cette histoire pour aller jusqu'à l'origine, revivre l'origine et lui donner une autre sortie que celle qui lui avait été donnée. Donc, et c'est un peu cette méthode qu'a utilisée pendant ces séances.
À la différence près que chez nous, on a tendance à remonter à l'origine de l'histoire en étant couché sur un canapé. C'est évidemment pas ce que proposait Irène Hauser, j'imagine.
Non, elles étaient dans une école. Elles avaient moi, j'ai vu la cassette vidéo, alors j'ai pu voir l'ambiance dans laquelle ça se passait. Elles étaient assises à des petits bancs d'école momentanément. Enfin, elles marchaient, elles étaient debout. Elles ont beaucoup pleuré. Elles se sont fâchées. Elles ont vraiment vécu toute leur vie quotidienne. Par exemple, on leur a fait prendre au début le rôle de leur mère. Et elles avaient toujours, il y avait toujours, disons, une protagoniste sur la vingtaine qui était là, une protagoniste qui joue un rôle et les autres qui lui donnent la réplique. Donc les autres membres du groupe sont ses partenaires dans ce jeu théâtral. Et elles évoluent ensemble et la psychothérapeute, elle intervient le moins possible, juste pour, disons, guider, donner les directions, apaiser si les choses vont trop loin et que la personne se désespère trop, par exemple, pour pas que ça de... Enfin, ce sont des femmes médecins, donc elles savent où s'arrêter, où prendre des précautions, parce que c'est vrai que ces retours dans le passé, ils peuvent être très douloureux et ils peuvent mal finir si on contrôle pas le processus.
Mais quand tu dis qu'elles se sont réunies pour travailler sur ce genre de choses, à l'origine, elles étaient venues pourquoi ?
Parce que donc ce sont des femmes qui ont été quand même choisies parce qu'elles étaient des leaders de la communauté. Hein? Et donc on espérait que de ce qu'elles auraient appris, elle donnerait à d'autres autour d'elle dans leur communauté.
Donc on tablait sur l'idée que la communauté est un lieu important pour faire discuter et changer les choses.
Ah bien sûr, peut-être encore plus à la campagne qu'à la ville. Donc mais ce qui est curieux, c'est que c'est le cas des femmes déjà très âgées et qui, chez nous, on dit « Oh, ça vaut plus la peine hein, à 75 ans de faire quelque chose comme ça » ou « Qui c'est qui va écouter ce que va raconter quelqu'un de... ?» Mais là, pas du tout. Non seulement elles se sont aidées beaucoup dans le groupe où elles avaient des âges différents, mais il n'y avait pas de préjugés dans ce sens-là. Et apparemment, ça donnait de très bons résultats parce qu'elles se sont revues une année après. C'était juste avant que Ursula viennent présenter ses travaux ici en juin, je crois juste un mois avant, elles se sont retrouvées et pratiquement toutes celles qui avaient participé à ce travail sont venues et ont remercié leurs deux psychologues, disons, qui les avaient dirigées. Et ça s'est très bien passé en général. Et bon, l'ambition évidemment, c'est de multiplier ce genre d'expérience, mais les deux psychologues ont travaillé complètement bénévolement. Et bon, c'est pas toujours possible de le faire parce qu'il faut aussi vivre. Alors, il faudrait pouvoir répéter ça souvent parce que elles ont mis à jour une quantité incroyable de problèmes entre les femmes et leurs filles. Elles ont trouvé que il y avait des conflits incroyables entre mère et fille et qu'il faut faire avancer chez elle la réflexion sur ce sujet et qu'il faut, oui, il faut, faut beaucoup parler, faut beaucoup faire de choses pour changer cette situation.
Sobre la tapien tejada, sus pétalos suaves se agitan, la linda guaria morada, flor de esta tierra bendita, se encuentra como un lucero, colgadita en la enramada, cuando en lo oscuro el jilguero va enredando su tonada. Por la orilla de los ríos, adornando las quebradas, donde son los montes fríos y están las aguas heladas. Florecita lindo paje, florecita nazarena, el luto de tu ropaje es el mismo de mi pena. El jazmín siempre blanquea y sangran las amapolas, solo en febrero tumbea el amor de tus corolas. Florecita veranera de la pampa y de la loma, como tú soy pasajera, como tú no tengo aroma. Sobre la tapien tejada, en la roca y el raudal, campea la guaria morada, la linda flor nacional. Ella es emblema y es gala, que embellece y glorifica, como un cela que echó ala, que protege a Costa Rica.
Dis donc, est-ce que c'est romantique la musique de Costa Rica? Donc, je vous rappelle que dans Remue Ménage, aujourd'hui, nous évoquons le Costa Rica. Bien sûr, nous parlons des femmes en compagnie d'Evelyne Merlard, Evelyne que vous connaissez bien et qui est allée passer, qui a passé deux fois un mois au Costa Rica, rencontrer de nombreuses femmes au cours de d'autres petites promenades. Et puis, nous sommes en compagnie de Chantal Saclier, qui, elle, a vécu là-bas beaucoup plus de fois et sur des plus longues distances, entre autres, pour créer, Chantal, un réseau concernant les enfants de la rue, c'est ça?
Pas exactement les enfants de la rue, concernant l'enfance en général. Et justement, quand j'écoutais Evelyne tout à l'heure, je pensais à deux aspects qu'on retrouve au Costa Rica et dans un certain nombre de pays d'Amérique latine, c'est-à-dire la communauté. La plupart du travail social qui se fait, enfin, ou à tendance sociale qui se fait en Amérique latine est basée sur le travail avec la communauté, c'est-à-dire soit la communauté rurale, soit dans les villes, parce qu'en ville, il n'y a pas que les classes moyennes, loin de là, il y a beaucoup de classes, disons, paupérisées. Et là, on travaille souvent beaucoup au niveau du quartier, du bloc de maison, parce que, en fait, pour que les gens puissent s'en sortir, et l'union fait la force. Mmh. C'est-à-dire, c'est beaucoup est basé sur appuyer les gens dans leur organisation pour essayer de trouver des solutions de survie, en tout cas à leurs problèmes. Et là, les femmes ont un rôle fondamental. On se rend compte que la plupart du travail qui se fait dans les quartiers ou au niveau rural, le fer de lance, c'est la femme. C'est-à-dire que là, il y a un niveau de responsabilité qui est très important. D'une part parce que la femme a la charge des enfants et que souvent, en tout cas dans les quartiers de ville, beaucoup moins à la campagne, mais dans les villes, elle se retrouve seule avec les enfants. Parce que l'homme part, change, etc. Il y a beaucoup moins de responsabilités souvent de la famille au niveau de l'homme. Donc la femme doit faire face seule souvent aux problèmes et c'est elle qui s'organise le mieux. Au niveau aussi, l'importance aussi qu'on voit dans toute l'Amérique latine de la famille. Bon, particulièrement au Costa Rica, parce que là, il y a eu moins de séparation des familles due à l'exil, à l'exode rural. Et c'est vrai que tu disais qu'il y avait un travail des femmes de 75 ans. C'est vrai que les personnes âgées, par exemple, ne sont pas seules, comme chez nous. Elles sont toujours intégrées dans la famille. La famille, elle est très, très souvent réunie, souvent dans un espace assez proche, où il y a plusieurs générations qui sont ensemble. Les enfants, les petits-enfants viennent très très souvent voir les parents, les grands-parents. Il y a un contact très proche. C'est à la fois un avantage et quelquefois un poids, comme on l'a vu dans les problèmes que ça peut poser au niveau des relations, au niveau de ce que des femmes même de 50 ans n'osent pas faire parce que leur mère est dans la maison, etc. Mmh. Mais ça aussi, c'est ces côtés de chaleur humaine, autant pour les enfants, qui sont beaucoup moins laissés à eux-mêmes, qui sont pris en charge dans l'ensemble de la famille, que pour les personnes âgées.
Mais alors, si vous pouvez nous présenter en quelques mots, quel était ce réseau concernant l'enfance pour lequel vous avez travaillé ?
Oui, alors nous, on partait d'une expérience que donc Christina, qui est costaricienne, et moi-même avions dans notre travail antérieur, qui était dans tout ce qui était le travail de protection de l'enfance. Chacune de nous avait connu différents pays d'Amérique latine et on pensait qu'il y avait justement beaucoup de gens qui travaillaient pour essayer de changer la situation de l'enfance en Amérique latine. Qu'un grand nombre d'expériences existaient, mais que malheureusement, tout restait isolé. Donc, en fait, chaque fois qu'il y avait un problème, quelqu'un réinventait une solution, alors que peut-être, en connaissant l'expérience des autres, aurait pu déjà éviter un certain nombre d'erreurs et aller beaucoup plus vite, plus loin. La même chose, on se rendait compte qu'il y avait des choses publiées, chaque fois la même chose, alors qu'on aurait pu économiser beaucoup de temps, d'énergie, d'argent, parce que l'argent dans le domaine social est toujours le problème numéro un. Donc, on a commencé avec cette idée d'organiser un réseau qui identifie un petit peu ce qui se passait en Amérique latine, qui travaillait, comment les gens travaillaient, et d'établir des liens d'échange pour se connaître, ce qui déjà renforce, parce que quand on est face à des problèmes sociaux énormes, on désespère assez souvent et assez vite, parce qu'on a l'impression de faire trop peu par rapport à ce qui existe. Donc le seul fait de savoir que d'autres sont en même temps au travail, ça aide beaucoup à avancer, disons.